Mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Frenkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois Yannick Moya, fondateur des Mal au cœur. Bonjour Yannick.
Bonjour Irène.
Yannick, vous êtes né le 21 janvier 1958 à Albi dans le Tarn. Vous êtes le dernier d'une fratrie de 4 enfants, un papa réfugié espagnol, une maman tarnaise. Vous avez 2 enfants. Vous débutez votre carrière avec un CAP de mécanicien ajusteur dans la ville de Saint-Jury, à côté d'Albi. Puis, je vous cite, une bonne étoile vous demande de venir travailler dans une société toulousaine et aéronautique. C'est là que vous apprenez vraiment le métier. Mais vous aviez vraiment envie de travailler dans le spatial et vous êtes embauché dans la société Matra qui deviendra Airbus Défense et Spatiale, où vous restez jusqu'à la fin de votre carrière, c'est-à-dire en janvier de cette année 2018. Pour ce qui est du chant, vous commencez à chanter au pensionnat chez les prêtres aux orphelins apprentis d'Auteuil qui découvrent que vous chantez juste et qui vous prédisent une belle voix si vous continuez à l'exploiter. Ce n'est qu'après avoir élevé vos enfants que vous intégrez une chorale dans le nord toulousain, mais très vite, vous quittez cette chorale pour intégrer un chœur slave. Vous y passez 5 années. La présidente de ce club vous dit un jour que le chœur régional recherche un ténor pour chanter le Requiem de Forel avec l'orchestre du Capitole. Vous passez une audition et vous êtes retenu. C'est dans ce chœur mixte que vous rencontrez des personnes qui vous proposent de faire de l'opérette compte tenu de votre voix. Et c'est ainsi que vous produisez dans de grandes salles tels que le Casino Barrière, des théâtres parisiens, marseillais et bien d'autres. Et ceci pendant 11 ans. Vous racontez de façon très anecdotique qu'une amie vous demande un jour de lui rendre service et d'être son chauffeur pendant quelques jours. C'est ainsi que vous vous retrouvez à déjeuner au Gigot, le restaurant Le Gigot, où cette amie vous présente le patron, M. Denis Méliès. Ayant été présenté comme un chauffeur chanteur d'opéra, ce dernier vous demande, après le repas, de lui chanter une chanson. Vous choisissez Au Sol et Millau, qui lui fait très plaisir. Et c'est ainsi qu'il vous indique qu'un de ses amis cherche des chanteurs pour faire un CD avec Bernardo Sandoval. Vous trouvez une dizaine de chanteurs, vous répétez pendant un an, et enfin vous enregistrez ce CD. Et c'est suite à cet événement que vous proposez à quelques chanteurs de créer un groupe avec vous. 5 répondent présents, et l'aventure commence en septembre 2008. C'est ainsi que démarrent les Mal au cœur, ce groupe qui, depuis, se compose d'une 30aine de chanteurs. Bien sûr, nous reviendrons longuement sur ce groupe, mais avant tout cela, j'aimerais savoir quel genre de petit garçon étiez-vous, Yannick ?
Eh bien, j'étais un petit garçon très sympa, souriant, espiègle, qui aimait faire des blagues à mes petits copains, aussi à ma famille.
En plus, vous m'aviez indiqué que vous étiez le dernier d'une fratrie de 4 enfants, le petit dernier, donc j'imagine que vous deviez être très espiègle, ouais. Chouchou en plus. Hein.
Ouais, j'étais le chouchou parce que mon père m'adorait beaucoup, et bon, ma mère aussi, mais mon père, je partageais beaucoup de choses avec lui, et notamment la pêche, et puis il me chantait des chansons aussi déjà. Donc, il me chante des coplas espagnoles. Et donc, voilà, c'était sympa.
Il avait une voix, votre papa, déjà ?
Il avait une voix, oui, il avait une voix. Pas une grande voix, mais il chantait juste. Oui. Comme ma maman, d'ailleurs. Ma maman faisait son ménage en chantant. Je pense qu'elle m'a donné aussi cette vocation. Parce qu'elle aimait chanter. Elle chantait tous les chants du moment. Et je l'écoutais. Voilà. Et donc, je chantais avec elle. Et je pense qu'elle m'a donné un peu ce don aujourd'hui. Quoi.
Alors, 4 enfants, le dernier. C'est 3 frères, des frères et sœurs ?
Oui, 3 frères.
Vous êtes 4 garçons. Les autres garçons chantaient aussi ?
Non, pas du tout.
Vous êtes le seul ?
Je suis le seul à chanter. Hein. Je suis le seul à chanter, qui chante juste mon frère aîné. Mais pareil, dans le même style que ma maman, les chansons du moment, du Claude François, des choses de l'époque. Et voilà, tandis que moi, non. Moi, j'aimais. J'ai déjà, à mon âge, quand j'avais 5-6 ans, j'aimais l'opéra, j'aimais tous les grands chanteurs, j'écoutais surtout Rossellito, tous ces chanteurs qui déjà à l'époque faisaient fureur, quoi. Donc
oui, déjà dès votre plus jeune âge,
j'aimais tous ces chants.
Une attirance pour le chant et le chant d'opéra.
Voilà, chant d'opéra, toutes les grandes voix, j'aimais ça, quoi. Placido Domingo, tout ça, C'était ma tasse de thé.
Alors, vous nous dites que vous partez très très jeune en internat chez les prêtres aux orphelins apprentis d'Auteuil. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que mon papa, très jeune, tombe malade. Il tombe malade d'une maladie que les gens connaissent peu, qui s'appelle la silicose. C'est une maladie des poumons qui est provoquée par les poussières, notamment pour les mineurs. Les mineurs, mon père, c'était le cas, c'était un mineur de pierre. Donc une poussière très agressive qui lui déclencha, dans l'âge de 45 ans, cette maladie.
C'est très jeune.
Et il est parti à 51 ans, donc j'avais tout juste 12 ans. Et c'est pour ça que, bon, même à 60 ans, je le pleure encore, parce que c'était vraiment un homme que j'adorais.
Oui, puis en plus, il est parti vraiment très jeune.
Et puis, il est parti vraiment très jeune. Donc, du coup, ma maman tomba malade aussi. Ma maman partie en dépression, et donc je me suis retrouvé un peu tout seul. Mes grands frères, vacants à leurs occupations, étaient encore dans les débuts de leur métier et tout ça.
Donc, ils étaient quand même plus âgés que vous.
Oui, ils sont plus âgés que moi. Ils n'ont pas pu s'occuper de moi, donc il a été décidé de me mettre en pension. Donc j'ai attaqué la pension très tôt. J'ai commencé la pension à 9 ans. Ça a été mes plus durs moments. À 9 ans, je pleurais dans mon lit tous les soirs. Mais bon, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sache.
Et vous voyez votre maman le week-end, les vacances, comment
je
ça se passe ?
Je voyais un peu ma maman. C'est ma grand-mère qui a repris le relais, ma grand-mère maternelle qui a pris le relais, qui me recevait et qui me faisait faire passer les week-ends un peu en famille.
Oui.
Et parce que ma maman était hospitalisée elle aussi. Donc voilà, et mon grand frère s'occupait de moi.
D'accord.
Mon grand frère venait me voir aussi au pensionnat et il cherchait à me faire sortir. Mais bon, j'ai passé de très très mauvais moments.
Oui, et est-ce que ça vous a isolé ?
Oui et non, ça m'a isolé, ça m'a forgé mon caractère. Ça m'a permis de voir les choses différemment qu'un petit garçon. Bon, j'ai manqué un petit peu de vie de petit garçon après.
Ça vous a donné une maturité trop
voilà,
vite.
Voilà, j'ai une maturité très, très très grande qui a fait que tout a découlé après dans ma vie familiale. Ça a découlé pourquoi ? Parce que j'ai voulu me marier très jeune pour avoir des enfants rapidement et puis pour pas qu'ils vivent ce que moi j'avais vécu. Donc je l'ai vu comme ça, et l'épouse, ma première épouse, a eu le même souhait que moi, donc ça fait que tout s'est bien passé. Nous avons eu les enfants très jeunes. J'ai tout juste 20 ans d'écart avec mon premier enfant.
Ah oui, effectivement.
Donc voilà, à 23 ans, j'étais déjà papa.
Oui, effectivement.
Voilà.
Et donc revenons sur ces années de jeune homme. Donc au pensionnat, les prêtres découvrent votre voix. Comment ça se passe ? Il y avait une chorale ?
Non, c'est-à-dire que quand on est vraiment en pension, chez des prêtres, il y a toutes les cérémonies. Il y a donc la messe qui est prévue et les messes sont tous les matins. Il y a une messe, le prêtre, le directeur de cette école c'était le prêtre, donc, et lui faisait une messe tous les matins. Et donc il y avait un tour de rôle pour être enfant de cœur. Et donc moi j'y allais souvent. Pourquoi ? Parce qu'après, on avait un déjeuner un peu spécial et c'était un petit peu la récompense pour le déjeuner. Mais et après, il y avait pendant les messes, étaient chantés des requiem et il y avait un abbé qui nous apprenait à chanter et qui regardait, qui jugeait les enfants qui savaient chanter. Et donc voilà, il faisait une sélection et donc j'étais tout le temps et j'étais l'enfant phare. Pourquoi ? Parce que j'avais une très très bonne oreille. Et je répétais exactement ce que le prêtre nous apprenait. Donc j'étais toujours mis en avant et j'ai commencé déjà à avoir une voix. Je n'avais pas mué encore, mais j'avais une voix très juste. Et il m'avait prédit que je serais ténor, donc ce que je suis à l'heure actuelle. Et voilà. Donc,
vous avez l'oreille absolue ?
Je ne l'ai pas absolue, mais je ne peux pas dire ça, parce que pour avoir l'oreille absolue, c'est faut être aussi savoir lire la musique et tout ça. Savoir la lire parfaitement. Non, je n'ai pas cette prétention, mais je suis capable de répéter très vite ce que j'entends. Au niveau du chant, c'est ce qui m'a permis d'aller très loin dans ma carrière de chant.
J'aimerais savoir quelle est la place de la religion, quelle a été la place tout au long de votre vie de la religion, question par rapport évidemment à toutes ces années de pensionnat chez les prêtres.
Alors, je me suis raccroché, bien entendu, puisque je me suis retrouvé un peu seul dans ce pensionnat. Je me suis raccroché à la religion, à la religion catholique.
Vous avez pensé à un moment en faire votre métier ?
J'y ai songé, oui.
Oui.
J'ai songé.
Ce qui est logique, hein, suivant votre parcours.
Voilà, j'ai songé. Je n'ai pas eu l'appel, comme disent tous les prêtres, de cette chose-là. Mais j'y ai pensé. J'ai songé. Après, la vie a vite repris le pas, puisque à 17 ans, je suis sorti du pensionnat. Et puis aussi, j'étais un garçon sportif. Donc, je faisais beaucoup de sport.
Qu'est-ce que vous faisiez comme sport ? Du foot ?
J'ai fait du foot. J'étais champion du Tarn-et-Garonne, en cadet. Et après, mon premier sport, c'était le rugby. Je suis rugbyman depuis tout jeune. J'ai fait toute mon école de rugby quand j'étais petit. Donc, c'est le rugby. Le rugby, l'école de la vie, comme on dit tout le temps, qui est pour moi...
Et des valeurs.
Et de valeurs. Et qui est vrai, qui est très, très vrai. Pourquoi ? Parce que, justement, le rugby, quand j'étais pensionnaire dans le Tarn-et-Garonne, j'étais à Moissac, je jouais au club de Moissac, et l'entraîneur m'a même proposé le choix de m'adopter, ce qui a été, comme on appelle ça, effroyable pour ma mère, parce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il y a une famille qui veut m'adopter, et là, ça a mis un coup de froid à ma mère, et qui a... Ça, je pense que j'ai fait un électrochoc et qui a permis qu'on retrouve d'autres valeurs à ma mère, parce que j'étais un peu sur l'oubli. Et donc voilà.
Sur l'oubli, mais vous en restiez un petit garçon très attachant et pour preuve, on a voulu vous adopter autrement.
Ouais. Voilà, ouais. Donc voilà, c'est ce qui fait que le choix de ne pas être prêtre ou quoi que ce soit et de commencer à croquer la vie à pleines dents, donc je suis parti sous une autre direction.
L'école.
Alors l'école très très mal.
Oui.
L'école pourquoi ? Parce que là où je travaillais à peu près bien, c'était l'âge où j'ai perdu mon père.
Oui.
Et donc là, j'ai fait un grand recul dans l'école. Ça a été, j'ai passé les trois années où ce sont les plus cruciales, c'est-à-dire sixième, cinquième, quatrième, très mauvaise. Donc c'est là où c'est le départ. Et là, je prends l'orientation d'apprendre un métier et de partir pour apprendre. Un métier, donc j'avais déjà l'idée quand même, et puis de faire comme mes frères, parce que mes frères travaillaient.
Aviez envie très vite d'avoir votre indépendance financière et puis de créer votre famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, d'avoir une vraie famille rapidement.
C'est tout à fait ça. Tout ce que j'ai fait rapidement, tout ça s'est fait vitesse grand V.
Aujourd'hui, alors on a dit que vous étiez né en janvier 58, vous avez donc 60 ans. Quel regard d'un homme d'aujourd'hui 60 ans portez-vous sur ce petit garçon ?
Alors le regard, c'est que là où je suis passé, je ne regrette pas. C'est le seul truc que je regrette, c'est l'histoire de mes parents. De ne pas avoir profité de mes parents maximum, c'est la chose que... Par contre, après la vie, comme je l'ai gérée, je n'en suis pas mécontent. Pourquoi ? Parce que j'ai deux enfants charmants. J'ai eu une épouse aimante pendant assez longtemps. Bon, après, la vie fait qu'on se sépare, mais ça, ce sont des choses...
Oui, ça, c'est des problèmes d'adultes, après.
C'est des problèmes d'adultes. Mais non, j'ai passé une vie trépidante, avec plein de choses. Comme j'étais assez créateur, j'aime faire beaucoup de choses. Donc, ça s'est super bien passé. Je pense que je ne regrette pas, j'ai mangé la vie à pleines dents, jusqu'à maintenant, quoi.
Donc, vous apprenez votre métier, vous arrivez à Toulouse, vous êtes embauché chez Matra, donc vous restez peu de temps.
Chez Matra, j'y reste 20 ans.
Ah, 20 ans, vous êtes resté chez Matra.
C'est à la BGSMK.
Mais oui, c'est effectivement dans votre première boîte, la BGSMK.
La première boîte, j'y reste 14 ans.
Ah oui, d'accord. Enfin, c'est déjà quand même un bout de chemin, 14 ans.
C'est un bout de chemin, 14 ans. C'est là où j'ai appris à découvrir Toulouse, à devenir... pas pur toulousain, puisque je suis né à Lille.
Mais un inconditionnel, en tout cas.
Un inconditionnel de Toulouse et une ville et des gens avec qui j'ai fait de belles choses.
Quand vous arrivez à Toulouse, vous vous installez à Toulouse même ?
Non, quand j'arrive, je suis chez l'ami qui me propose ce poste à la BGSMK et je dors dans son jardin, dans une caravane, pendant 6 mois. Et je suis à Saint-Geniez-Bellevue.
D'accord.
Saint-Geniez-Bellevue, au nord-est de Toulouse. Et là,
c'est après l'Union, je crois.
Oui, après l'Union. Et donc là, j'y reste 6 mois, je suis intérimaire et après je me fais embaucher. Et là, je vis à Toulouse.
Bien sûr. Puisque
la société me propose un appartement de fonction qui se trouve, qui était aux Isards. Donc j'ai vécu aux Isards. Et des Isards, mon enfant naît et je m'en vais vivre à Fenouillet.
D'accord.
Et j'y reste 35 ans.
Voilà. Et là, la vie commence avec votre famille, un métier et...
Voilà.
La vie de Yannick Moya commence.
Voilà.
Je vous propose, Yannick, tout de suite une première pause musicale. Et alors, votre choix s'est porté tout naturellement sur Os et Lumillo, puisque c'était la chanson que vous aviez chantée à Monsieur Méliès. On l'a vu sur l'introduction. Et alors ici, elle est chantée par Pavarotti. On écoute.
Magnifique.
Alors, deux mots sur cette chanson ?
Eh bien, c'est une, deux mots sur cette chanson. Bon, déjà, Pavarotti, c'est un de mes préférés, de mes ténors préférés, par son charisme. Et puis, bon, cette voix qu'on n'oubliera jamais, quoi, hein, qu'on n'oublie jamais. Et aussi, bon, c'est Os et Lumillo, c'est l'histoire qu'on racontait tout à l'heure. Os et Lumillo, c'est un chant que j'ai appris avec un professeur de chant et qui pour moi a été révélateur au gigot. Au gigot, je chantais cette chanson tout le temps.
Alors justement, vous parlez des cours de chant. À partir de quand vous prenez des cours de chant dans votre vie ?
Eh bien, en clair, je prends à partir de 35 ans à peu près.
À l'âge de 35 ans, oui.
Au départ, je chantais, bon, on commence toujours dans le sport. On peut appeler ça chanter, au départ on gueule parce qu'on fait les troisièmes mi-temps et on chante nos chansons par yard, bien entendu. Dans le rugby, c'est ça. Mais là aussi, on se découvre et on se lâche, on fait part de sa voix et on essaye de chanter le plus propre possible, tout en chantant des fois des bêtises, mais on arrive à chanter bien. Et donc là, on se fait repérer aussi. On se fait repérer. Il y a des gens qui... C'est comme ça que je me suis fait repérer. Un ancien du village, de mon village, me dit, tu sais, Yannick, tu devrais venir chanter avec nous dans une chorale. J'ai une chorale et tu apporterais vraiment quelque chose à cette chorale. Quoi. Donc, à force de me tenter, je suis parti dans cette chorale du nord de Toulouse. C'était à Aucamville. Et donc là, j'ai commencé après, on m'a dit, tu sais, tu devrais prendre des cours. Et là, j'ai commencé à prendre des cours. Et voilà, et donc, on m'a un peu réglé, on m'a réglé ma voix, parce qu'il faut absolument la régler. Et d'ailleurs, tous les grands chanteurs sont toujours avec leur professeur. Il faut le savoir, ça.
Continuent toute leur vie à apprendre.
Continuent à apprendre à chanter et aussi à régler leur technique vocale.
Et alors... Quand vous racontez, comme je l'ai fait en préambule, l'histoire d'avoir chanté cette chanson devant Denis Méliès, c'était en quelle année ça ?
Alors là, vous me posez une colle. Là, ça devait être en...
Parce que c'est là que tout a commencé au final.
C'était en 2007.
2007, donc il y a 11 ans.
Oui, 11 ans.
Donc effectivement, vous créez le groupe Les Mal au Cœur un an après. Donc tout a été très, très, très vite depuis l'enregistrement de ce fameux CD avec Sandoval. Mm-hmm. Après, vous avez tout de suite créé Les Mal au Cœur. J'aimerais qu'on parle justement de cette aventure. Donc vous proposez à quelques camarades de chant de fonder le groupe avec vous.
Mm-hmm. D'abord, excusez-moi de
couper. Je vous en prie.
D'abord, le premier départ, c'est quand je pars avec le chœur franco-slave, puisque je chantais au chœur franco-slave de Toulouse.
Oui.
Donc nous chantions que des chants ukrainiens, russes. Et nous sommes invités à Dax, à faire une journée chant à Dax. Et nous sommes invités par le gros groupe de Dax qui sont 43 choristes. Je ne sais pas s'ils sont à l'époque, ils étaient 43 choristes. Et là, j'arrive que des hommes. Et ils nous laissent faire notre concert. Et puis après notre concert, ils nous invitent dans leur salle de réception. Et là, ils se mettent à chanter. Et là, j'ai mon cœur qui s'ouvre et j'entends sous ces chants de garçons. Et j'ai dit, ça, c'est quelque chose de magnifique. J'entends ces chants pyrénéens, puisqu'ils chantaient du basque, ils chantaient un peu de tout, surtout des chansons de montagne.
Donc ça vous fait vibrer.
Ça me fait vibrer, et je suis dedans, et je suis à fond dedans. Et j'ai dit, quand tu rentres à Toulouse, c'est ce que je veux faire. C'est ce qu'il faut que tu fasses, Yannick. Et effectivement, je me rends compte qu'à Toulouse, il n'y avait pas de cœur d'homme. Et donc, j'arrive à Toulouse, et je fais ça. Et je me dis... C'est ce que tu feras.
Mais alors, entre « je veux faire ça »,« j'arrive à Toulouse et je fais ça », enfin, j'imagine que c'est pas en claquant des doigts.
Non, il se passe 6 mois.
Alors, comment ça se passe ? Vous proposez déjà à quelques chanteurs avec qui vous aviez déjà travaillé, s'ils étaient d'accord, comment ça se passe ?
Pas du tout. J'ai l'aventure de Bernardo Sandoval qui commence, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, on travaille pendant un an ensemble. Je rencontre Denis Millet, je lui chante au Sélémire. La semaine après, je lui trouve 10 chanteurs, parce que je faisais de l'opérette. Donc, dans l'opérette, j'avais des garçons qui chantaient. Et donc, je leur fais cette proposition de venir faire cet enregistrement avec Sandoval, qui normalement devait se dérouler sur quelques mois. Mais l'aventure a duré un an, voire presque un an et demi. Donc, nous enregistrons ce CD. Et c'est à la sortie de... Nous étions en train de manger, nous venions juste de finir le CD, là. On venait de l'enregistrer, il était dans la boîte, et je propose à quelques gars qui étaient là, j'ai dit, voilà, j'ai une aventure à proposer à des garçons, je veux monter un cœur d'homme sur Toulouse, et alors on me dit, qu'est-ce que tu veux faire comme style de chant ? J'ai dit, je veux faire du chant polyphonique, chant pyrénéen. Et là, les mains se lèvent, on me dit, moi je viens. Et 5 garçons se proposent de venir. Donc comment ça va se dérouler les choses ? Et bien, j'ai dit, moi, il faut que je cherche quelqu'un pour nous faire travailler. Je cherche un chef de chœur, parce que j'avais déjà toute mon idée. C'était de ne pas avoir un chef de chœur, quelqu'un qui dirige, avec qui bat des bras, comme dans toutes les chorales. C'était, fallait qu'on se débrouille tout seul à chanter. Un gars qui donne la note, c'est ce que je fais à l'heure actuelle depuis 10 ans. On donne la note et on démarre les chants. Et les gars, ils m'ont dit, d'accord, on vient. Donc, tout ça, c'était au mois de juin. Fin juin, nous sommes invités à tout le groupe qui avait chanté pour Sandoval, on était invité à l'Aiguevin pour Catinou Jacouti. C'est une fête qui se passe chaque année. Et là, je prends une personne avec moi et je lui raconte mon histoire, que je veux monter ce cœur d'homme. Et elle me dit, je te connais quelqu'un pour s'occuper de... C'est une chanteuse qui est connue sur Toulouse, qui s'appelle Fanny Châtelain, qui chante dans les Las Mondinas et qui est... qui s'était pris de ce que je voulais faire et qui est allé dans mon idée, qui a suivi mon idée. Et donc, nous sommes rencontrés début septembre et mi-septembre, nous attaquions l'aventure des Malocœurs.
Donc là, au départ, vous aviez que 5 chanteurs.
Nous étions une poignée, entre 5 et 6 nous étions.
Entre 5 voilà. Et 6. Et comment le groupe a grandi alors? Parce que vous êtes une trentaine hein, aujourd'hui.
Voilà, le groupe a grandi, pourquoi? Parce que les garçons se sont parlé, tu chantes où toi? Mais moi je chante, il y a un gars qui a créé un chœur qui s'appelle les Malocœurs, je suis là, est-ce que tu penses que je pourrais venir? Donc chacun a amené un ou deux copains, et voilà, donc ça fait des émules, et on s'est retrouvés comme ça.
Et vous vous êtes retrouvés à 30 rapidement?
Non, pas du tout, pas à 30. Nous sommes restés pendant 4-5 ans, une quinzaine.
Oui.
Une quinzaine, et on a commencé à faire de la qualité. Donc, et là, c'est parce que nous avons eu des gens qui n'étaient pas trop chanteurs au départ, et donc, naturellement, ils sont partis. Ils sont partis. Après, il y en a d'autres qui sont partis pour le travail aussi, parce qu'ils ont été mutés. Il y en a qui sont partis parce que bon, ils ont senti que ce n'était plus leur place, parce que nous avancions, parce que moi, j'avais quand même un objectif, c'est que je voulais un cœur qui tourne parfaitement en rond, et aussi tout en gardant la camaraderie, mais je voulais quelque chose de qualité. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Je commence à avoir un petit peu de qualité, enfin un petit peu.
Alors Yannick, aujourd'hui vous avez 30 chanteurs dans votre chorale, est-ce que la chorale continue à être ouverte à d'autres éventuels chanteurs qui aimeraient l'intégrer? Et si c'est le cas, quelles sont les qualités demandées? Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il faut chanter d'une certaine façon, etc., etc.?
Alors déjà, c'est très difficile ce que vous me posez comme question. Enfin, la première question sur laquelle je peux vous répondre, c'est que pour l'instant, on prend personne. J'en ai refusé encore un samedi. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au nombre voulu, c'est-à-dire à l'heure actuelle, nous sommes 32. J'avais dit que je m'arrêterais à 31. Nous sommes 32, oui. J'ai craqué.
31 pour la Haute-Garonne.
Voilà. J'ai craqué, nous sommes 32, mais aussi il faut penser quand même que nous avons des personnes âgées chez nous qui chantent, parce que ça va de 35 ans à 78 ans.
Ah oui, d'accord.
Donc, je ne veux pas dire que nos anciens ils doivent être mis à la réforme, mais on s'attend tous, et moi le premier, tôt ou tard, à ne pas pouvoir chanter. Donc il faut se faire une raison, au bout d'un moment il faut arrêter. Ceci dit, ils ne seront pas exclus des Malocœurs, parce que la personne qui a chanté avec les Malocœurs reste déjà dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé à la vie du groupe. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, parce que nous allons faire une fête, et je souhaite qu'ils soient tous là. Quoi.
Alors, les Malocœurs, déjà j'aimerais qu'on parle du nom. Les Malocœurs, il faut expliquer à nos auditeurs. Les mâles, c'est M-A-L-E-S, et cœur comme un cœur de chant.
Voilà.
C'est très bien trouvé. C'est vous qui l'avez trouvé?
C'est
collectif.
C'est deux. Nous sommes deux garçons à l'avoir trouvé.
Oui.
C'est Pierre Bassenier, qui est un chanteur que nous avons, une très belle basse chez moi, et moi-même. Nous l'avons trouvé tous les deux. Et voilà, on s'est dit, on cherchait le nom, parce que d'entrée, quand j'ai créé ce cœur, le premier m'a dit, il faut trouver un nom. Il faut y trouver un nom, c'est parce qu'on va s'appeler comment, les hommes, quoi que ce soit. Et donc, tous les deux, on a dit, il est mal au cœur. On a fait ce jeu de mots, il est mal au cœur. Ça fait les Macs aussi. Bon, on n'en est pas, mais ça fait les Macs. Et voilà. Et puis, au début, ça a été décrié. Il y a des gens qui ont dit, oh, c'est pas joli, tout ça. Et à force, ça s'est mis dans les mœurs. Et puis après, comme je dis, c'est toujours le résultat qui compte. C'est ce que nous sommes et ce que nous faisons transpirer qui fait qu'on oublie même le nom. Enfin, on n'oublie pas le nom, mais le nom, il ne dérange plus les personnes.
Alors, les Malocœurs, donc cette chorale, vous répétez souvent entre vous?
Nous répétons tous les lundis.
Ah oui, vous avez
tous les lundis soirs.
Arrêtez.
Alors, quand nous avons commencé les Malocœurs, nous répétions que tous les 15 jours,
oui.
Et nous répétions les jeudis. Et donc, j'ai senti que c'était pas bon. Et puis, on avançait pas dans le programme. Donc, on est passé. Fanny Châtelain a été d'accord de se libérer le lundi. Nous avons commencé le lundi. Mais ce que je voulais dire aussi, j'en profite puisque je suis à votre émission, il faut que vous sachiez que c'est mal au cœur. C'est un peu aussi grâce à la famille Millet qu'on parlait tout à l'heure, qui détient le gigot et. Denis tient le gigot et sa sœur tient le bon vivre. Et c'est grâce à cette famille, j'espère qu'ils m'écouteront l'émission parce que je tiens
Cathy
alors...
Cathy aussi, Cathy, donc, qu'on salue.
Voilà, Cathy qu'on salue, Cathy et Denis, qui ont été des gens, je ne sais pas si on peut dire employés, des précurseurs des mal au cœur. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont fourni les salles gratuitement pour qu'on puisse répéter. Parce que j'ai commencé à créer mon cœur et c'est Denis le premier qui m'a prêté son bureau, en gros, pour répéter, puisque nous n'étions pas nombreux, pour répéter et pour commencer l'activité des mal au cœur. Et pour le remercier, quand nous avions fini la répétition, tous les lundis, nous chantions dans le restaurant pour les clients qu'il avait là. Et ça a fait. C'est ça aussi, ça a permis à d'autres chanteurs de nous voir, de venir retrouver le groupe. Et c'est grâce à eux que les mal au cœur, les 5 premières années, ont tenu le coup avec eux. Pourquoi ? Parce que c'était chaque répétition, c'était une fête. Et voilà, il y avait ce bonheur après de chanter pour les gens. Et ça nous permettait aussi de mettre en application ce que nous venions d'apprendre 5 minutes avant.
Donc c'est une aventure d'homme et avant tout d'amitié.
Ah voilà, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, les mal au cœur, j'ai les mal au cœur, je suis fier de dire que c'est d'abord une aventure d'amis. C'est une aventure de copains. C'est là-dessus que nous avançons, les mal au cœur. Parce que moi, bon, j'y tiens beaucoup. Je n'ai jamais rien lâché. C'était d'abord l'amitié. Et l'esprit rubis aussi. Se retrouver à la fin, manger un morceau, boire un coup. Bien sûr, dans le respect de l'être humain. C'est-à-dire, on ne fait pas ça pour boire. C'est vraiment l'amitié. Se le retrouver ensemble.
Alors, vous répétez donc au départ tous les 15 jours, après toutes les semaines, hein, tous les lundis, vous le dites, et vous vous mettez donc à vous produire dans différentes salles. Vous enregistrez des disques également.
On enregistre un CD, oui. On enregistre un CD en 2015.
Oui.
Et voilà, c'était... Ça a été un peu, qu'on appelle ça,
tout ça a quand même pris une vitesse supérieure, parce que maintenant, voilà. À aujourd'hui, Toulouse et je suppose dans la région, les mal au cœur sont connus, reconnus d'ailleurs, mm-hmm. et on sait que vous vous produisez dans pas mal d'endroits et de manifestations différentes.
Alors il y a une chose que je voulais vous dire aussi justement par rapport à ça, c'est qu'on m'avait fait des propositions dans le temps d'aller très vite dans le champ, et moi j'ai jamais voulu. Je voulais qu'on prenne le temps, les mal au cœur, de travailler et d'amener de la qualité d'abord. Pourquoi ? Parce que le chant, c'est très ingrat. Et comme il y a assez longtemps que je chante et que j'ai chanté avec des professionnels, j'ai vu comment ça se passe. Il faut être humble dans le chant. Le chant, c'est un partage, mais il faut être humble. C'est-à-dire que ne faut pas voler les étapes. Pourquoi ? Parce qu'on se casse la figure rapidement. Donc il faut, je voulais que ce cœur monte doucement dans la qualité, et c'est ce qui s'est passé. Et là, nous avons choisi de faire ce CD en 2015 parce que nous pensions être prêts. Je pense qu'on n'était pas...
À maturité.
On était à maturité, mais pas encore assez, puisque je pense que le second CD qui se profile...
Ah.
Sera...
Qui se profile pour quand ?
Pour 2019.
D'accord.
2019, voilà, vous êtes la première radio à le savoir.
Yes.
Donc voilà, 2019, ce sera notre prochain CD. On n'y a pas encore trouvé le nom, mais on le trouvera et on saura vous en faire part. Donc voilà, 2015, donc ce premier CD qui était dirigé par Fanny Châtelain. Fanny Châtelain qui nous a fait vraiment travailler. Nous avons enregistré ce CD à l'église Saint-Exupère. Qui a un très très bon, une très très belle acoustique. Et donc le résultat du CD a été aussi bien, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que ce CD nous a permis qu'on nous connaisse et de laisser une trace à tous les gens qui venaient nous voir chanter. C'est ce qui se passe. Pourquoi encore vendredi nous avons chanté à l'île Jourdain. Et les gens, il y a beaucoup qui sont repartis avec un CD. Parce que le spectacle que nous avons fourni leur a plu et ils voulaient garder une trace de notre passage.
Alors, moi, j'ai eu l'occasion de vous entendre deux fois. Une fois à la mairie, à Toulouse, et une fois dans la salle, c'était à l'automne, alors ça devait être à Saint-Aurin, je crois, mm-hmm. vous aviez fait un spectacle... Oui, c'était Altigone, c'est ça. Mm-hmm. Alors, on ressent beaucoup de choses quand on vient vous écouter, parce que d'abord, on sent l'amitié, on sent les valeurs, on sent que c'est une aventure... on sent que vous vous amusez, mais vous vous amusez d'être sur scène, vous y prenez du plaisir, c'est incontestable. Et puis on sent tout le travail derrière et le sérieux qu'il y a. Et justement, je voulais savoir, à aujourd'hui, on a dit que vous êtes un tout jeune retraité, puisque ça fait 3 mois que vous êtes à la retraite. J'imagine que vous passez un temps, en tant que fondateur de ce groupe, vous devez passer un temps de incroyable, non seulement à répéter, mais également à prévoir les futurs spectacles. C'est vous qui vous occupez de tout ça,
voilà, ouais.
De l'organisation de...
Alors, de l'organisation, maintenant, j'ai un peu levé le pied, malgré que je sois à la retraite, mais enfin, je suis toujours... je gère plein de choses. Je suis le président fondateur. Mais,
ouais, c'est la vrai. Pièce maîtresse.
Je suis la pièce maîtresse, voilà. Déjà, la pièce maîtresse, il y a quelques temps, là, on a créé un comité... un CA et après nous avons un bureau et maintenant j'essaye.
C'est sous forme donc d'association.
C'est une association, j'ai une association de 1901 et j'essaye de déléguer ce qui m'est pas facile. Mon épouse m'a beaucoup aidé là-dedans. Elle me dit, tu devrais le déléguer, cette chose-là. Donc, elle m'a aidé sur ce chemin-là.
Oui, parce qu'on en profite pour le dire, vous êtes un jeune marié.
Voilà,
un jeune retraité, mais également un jeune marié.
Tout à fait, oui. Voilà. Et oui, un jeune marié. Et voilà. Je suis marié avec Hélène, que j'aime beaucoup. Hélène dit Mimi, ou aussi, pour les mal au cœur, il l'appelle Bonne Mine.
Bonne mine.
Bonne mine parce que je suis...
En référence à la, c'est la femme bande du chef. Dessinée, c'est la femme du chef. Voilà, tout à fait, d'accord. Ouais. Alors, voilà. Je vous propose tout de suite une deuxième pause musicale. Et là, en préparant l'émission, Yannick, vous m'avez dit que vous me feriez un joli cadeau. C'est que vous alliez nous chanter une chanson en live. On vous écoute.
Oui, c'est la première fois que je veux la chanter en live. Donc... pas en live, mon épouse la connaît beaucoup parce que je l'ai répété tellement à la maison qu'elle en a la tête comme un chaudron. Voilà, je vais vous chanter une chanson qui me tient à cœur, puisque je suis en train de l'apprendre pour la chanter à ma famille, parce que notre prochain voyage, c'est l'Andalousie.
Oui.
Et donc, du côté de mon papa, ils sont d'Espagne, donc je vais vous chanter Granada.
On vous écoute.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía que yo te vengo. Granada, tierra ensangrentada en tarde de toro, mujer que conceba el embrujo de los aros moros, de sueño riberte gitano cubierta de flores, y beso tu boca de grana, yo gozo manzana, que me hable de amores. Granada, Manola, cantará en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le dirá Marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de linda mujer, de sangre de sol.
Merci. Merci.
Merci beaucoup, Yannick.
Avec plaisir.
Ah, Je vais reprendre mes esprits aussi, parce que c'est, moi aussi, ça me fait quelque chose là, de vous écouter. En même temps que vous chantiez, je regardais la fenêtre quand même en me disant comment on va justifier si jamais le carreau pète. Mais c'est bon, elle est toujours là. Alors, Yannick, on a dit que vous aviez 60 ans, que vous étiez un jeune retraité, que, évidemment, les mal au cœur prennent l'essentiel de votre vie, mais pas que, puisque vous êtes un jeune marié avec Hélène. Aujourd'hui, le quotidien de Yannick, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le quotidien de Yannick, c'est la bricole. Je bricole beaucoup.
Oui.
Enfin, nous venons d'acquérir une maison à la campagne. Donc, vraiment, nous sommes vraiment à la campagne. Donc, on a beaucoup de choses à faire à la maison. Moi, je m'occupe essentiellement, dans un premier temps, de l'extérieur, puisque nous jardinons. Je veux faire du jardin. Bon, et là, c'est le temps, en ce moment, ne s'y prête pas. J'ai le jardin, nous avons des animaux, des poules, des moutons. Et voilà, et après, ma vie, elle est là. Et puis, j'ai beaucoup d'occupations. Je chasse, je pêche. Et après, nous voyageons avec mon épouse.
Ah, c'est bien.
Voilà, on essaie de faire des choses ensemble. Voilà. Je pense que j'ai une vie bien remplie.
Alors, on va en revenir au mal au cœur, parce que comment on fait pour avoir vos dates de spectacle, de savoir où vous vous produisez, comment ça se passe ? Il y a un site dédié, il y a une page Facebook.
Il y a un site.
Oui, on peut donner le nom du site.
Oui, ça s'appelle Les Mal au cœur. Vous tapez Les Mal au cœur des Toulouse.
Oui.
En français, des Tolosa, mais des Toulouse. Et là, vous rentrez vraiment dans le site et vous voyez les dates. Des fois, parfois, il n'est pas mis à jour de suite, mais on peut voir nos dates.
C'est vous qui vous occupez du site ?
Non, c'est mon secrétaire.
C'est votre secrétaire, voilà. D'accord. Et une page Facebook aussi ?
Et nous avons une page Facebook aussi.
Donc, où on retrouve tous les derniers spectacles à arriver, etc.
Les mal au cœur, certains mal au cœur, ils mettent tout ce qui se passe dans les mal au cœur pour qu'on ait une suite de toutes nos rencontres, de tout ce qui se passe chez les mal au cœur.
D'accord. Et alors, les mal au cœur, vous vous rencontrez une fois par semaine pour les répétitions. Vous vous voyez pour les spectacles. Vous arrivez, vous faites d'autres choses en dehors de ça. Vous vous voyez entre vous.
Oui. Après, avec certains, on se fréquente.
Et oui.
Donc voilà, on passe des week-ends ensemble. Mais les mal au cœur. C'est vraiment une histoire d'amis, donc on fait pas mal de choses ensemble avec quelques-uns, bien sûr pas avec tous, mais ça fait partie des choses de la vie, quoi, de la vie normale.
30 personnes, j'imagine qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine discipline.
Ah oui, il y a une discipline, mais alors c'est très facile chez les mal au cœur. Bon, après moi je suis, j'essaie d'être comment on appelle ça ?
Le chef d'orchestre.
C'est le chef d'orchestre. Donc, il faut que ça marche rond. Mais j'ai des garçons très sympas. Mais on garde toujours la convivialité. Ce qu'il y a de bien avec les mal au cœur, ce qui est surprenant, c'est cette, qu'on appelle ça, cette discipline. Autant on fait les imbéciles quand nous nous retrouvons avant ou après, mais dès qu'on parle de travail, dès qu'on se met au travail, c'est fini, c'est rangé. Les gars, ils sont là et ça travaille.
Vous êtes en train d'expliquer un petit peu qu'une répétition des mal au cœur, c'est un petit peu comme un match de rugby. On a après la troisième mi-temps où chacun se lâche, mais tant qu'on est sur le boulot, on est sur le boulot.
Voilà, on est sur le boulot. Et puis, il faut savoir aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais toutes nos répétitions sont gérées par une fille, par une dame, mais qui va devenir une dame, puisqu'elle ne va pas tarder à être maman,
oui.
Et qui s'appelle Julie Perrin. Et qui est une chanteuse d'opéra, d'ailleurs, que je vous conseille d'aller écouter chanter.
J'ai eu l'occasion de l'écouter justement
à Altigone.
À Altigone, oui.
Voilà, qui est une fille qui est pareille, qui est très professionnelle, donc, puisque c'est une technicienne vocale, une voix, une oreille absolue, puisqu'on parlait d'oreille absolue tout à l'heure, et qui a un charisme. Donc, quand elle dit. De se taire, tout le monde.
Les 30 se taisent.
Les garçons,
au doigt et à l'œil.
Ça ne moufte pas. Voilà, au doigt et à l'œil. elle sait se faire respecter, mais elle a une telle prestance dans son travail et dans ce qu'elle nous explique. D'ailleurs, tous les progrès des Malocœurs, je dénigre pas Fanny Châtelain qui nous a fait travailler sur un autre style et qui nous a fait très bien travailler. Hein. Je me remets les choses à leur place. Et Julie Perrin, nous a donné une autre dimension.
Depuis quand vous avez Julie avec vous ?
Ça va faire maintenant depuis 2015.
Depuis le CD. Voilà,
puisque Fanny Châtelain est partie après le CD.
D'accord.
Voilà. Elle est restée, elle a honoré le CD et puis après elle nous a quittés.
D'accord.
Et donc voilà, depuis 2015, c'est Julie qui nous fait travailler. Et donc on a pris
J'imagine effectivement que ça doit être une sacrée femme pour travailler avec 30 hommes.
Voilà, mais surtout c'est qu'elle est très très professionnelle, donc très très professionnelle et technicienne vocale. Et ça nous a fait faire un bond au cœur dans tout ce qui est nuance, dans tout ce qui est travail du chant, quoi.
On peut peut-être avoir des dates proches pour les gens qui écoutent l'émission et qui aimeraient justement vous découvrir dans une salle.
Tout à fait. Nous serons le 7 avril à l'église des Minimes.
Oui, donc c'est très bientôt, ça, le 7 avril.
7 avril, nous chanterons à l'église des Minimes à 20h30. Et là, nous faisons un échange avec un chœur avec qui nous sommes très amis, qui est le chœur de Pêche-Bonnieu, qui s'appelle Accroche-Cœur, dont la présidente est une amie, Jeanne Mété. Donc, chaque année, nous faisons un échange. L'année dernière, nous étions à Revel avec eux. Cette année, c'est nous qui nous invitions au Minimes. Et je dis aux auditeurs qui passeront une très, très belle soirée. Pourquoi ? Parce qu'Accroche-Cœur chante merveilleusement bien aussi. Et on finira par les Malocœurs ou si j'ai fait un choix de très jolis chants pour cette occasion.
Comment ça se passe ? C'est les salles qui vous sollicitent ? C'est vous qui faites des démarches ?
Non, ce concert est organisé par les Malocœurs. Mm-hmm. Nous demandons à l'église que nous avons choisi de nous réserver cette date. Et après, nous mettons ça en place. Là, pareil, tout à l'heure, je vais faire des affiches. Il y a tout un boulot, il y a toute une organisation derrière qui est importante, qui est lourde, mais voilà, il faut l'assurer, il faut l'assumer. Et voilà, donc c'est le rôle du président. Je délègue aussi pour certaines. Alors cette année, on a mis en place, qu'on appelle ça, on a mis en place un fonctionnement, c'est-à-dire je délègue un voire deux garçons des Malocœurs pour gérer une date. Et c'est eux qui prennent rendez-vous avec les organisateurs, avec les responsables des lieux.
Ça tourne évidemment avec 30 personnes, voilà, son tour.
Voilà, mais on fait une tournée comme ça. Ça permet aux Malocœurs de voir l'implication que ça
bien
amène.
Bien sûr.
Et ça responsabilise tout le monde.
Vous n'avez jamais eu de problème avec un membre des Malocœurs ? Tout s'est toujours très bien
Alors,
passé.
Alors non, si, les Malocœurs, quand il y a un problème... j'ai toujours dit, moi, quand j'ai créé les Malocœurs, que je ne voudrais jamais un verre dans la pomme. Donc ça, c'est mon rôle. C'est mon rôle. J'ai créé ces Malocœurs. Je sais où je veux aller parce que l'aventure n'est pas finie. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui...
Alors, vous savez où vous voulez aller ? On peut le savoir, nous ?
Je veux aller... pour vous dire, je veux qu'on prenne une autre dimension, les Malocœurs. C'est ça où je veux savoir où je veux aller. C'est que je veux qu'on prenne une autre dimension vocalement et aussi ne pas s'arrêter à la région. Je veux qu'on change de région. Bon, nous avons changé quand même de région. Hein. Nous avons chanté en Corse, nous avons chanté en Italie, voilà, on va chanter en Espagne. Mais
oui, donc vous faites des tournées, mais alors en plus,
mais après,
ça
en
doit
France,
être...
En France, je veux qu'on touche un peu la capitale, qu'on s'expatrie, mais aussi pour être reçu dans de belles salles.
D'accord.
Voilà, c'est ça mon but. Mais tranquillement,
Mais alors, c'est pas compliqué de faire en sorte que les 30 puissent se déplacer, ben justement, par exemple, pour aller dans une salle à Paris, ou vous dites avoir été en Corse, ou là, en Espagne. Là, vous avez les 30 qui suivent. Ça doit être une sacrée organisation, parce que chaque personne, vous l'avez dit, c'est déjà entre 35 et 78 ans, donc chacun a sa vie, a son planning, son job, etc. Ça doit être compliqué, non ?
Ouais, c'est pas compliqué. C'est un montage, mais en principe, on ne prend jamais les 30. On ne prend jamais les 30. Par exemple, pour l'Espagne, nous partons à 22 choristes.
Ce qui est déjà énorme. Hein.
Qui est déjà bien, 22
donc
choristes.
Donc il faut gérer l'hôtel pour 22 choristes,
il faut tout gérer.
Sacrée organisation.
Oui, bien sûr, c'est toute une organisation.
Vous partez combien de temps en Espagne ?
On s'en va 10 jours.
Et donc vous allez chanter sur les 10 jours ?
Non,
vous...
on a prévu de faire 3 concerts.
Qui sont dans quelle ville ?
Il y a Alhama de Granada, c'est le village de mon père qui s'appelle Alhama de Granada. Et Grenade, à Grenade, on va chanter aussi. Et le troisième, il est à définir. Mais enfin, il est quasiment prêt. Je pense que ça sera à Sarrafaya. Sarrafaya, c'est un village qui n'est pas loin d'Alhama de Granada. Voilà, où nous serions normalement reçus par un chœur de femmes.
Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête deux petites minutes là sur la date. Vous dites que vous allez chanter dans le village de votre papa. Mm-hmm. Mais ça va être...
Ça va être la grande émotion. Hein.
Ça va être une sacrée émotion, là. Oui, ça va être une dimension différente, forcément.
Voilà. Là, je vous ai chanté Granada en live, mais là-bas, je vais le chanter devant toute ma famille. Je ne sais pas si je vais avoir la même attitude. Pourquoi ? Parce que je suis vraiment dans le pays de mon père. Et puis, vous vous rendez compte de toute l'émotion. Déjà, j'avais de l'émotion de vous chanter Granada ici. Mais là-bas, ça va être très, très chaud, très, très fort. Et voilà, c'est, quand je parle de continuité de des mal au cœur, c'était une histoire qui était pour moi écrite, d'amener les mal au cœur, d'amener ses amis dans le village de mon père. C'est un peu comme si je parlais à mon père à l'heure actuelle et que j'arrivais avec mes chants.
Et que vous arrivez avec vos amis en les présentant à votre papa.
C'est ça, c'est mon regard.
Qu'est-ce que vous avez envie ?
Envie
de faire sur la suite, sur l'avenir ?
Sur l'avenir, j'ai envie que... que ces mal au cœur se produisent un maximum de jolis endroits. Pourquoi ? Parce que je veux axer l'année 2019 sur... la 18 n'est pas finie, mais sur la 19, qu'on fasse... moins de concerts peut-être, mais qu'on fasse du joli concert et que vraiment on aille au bout de ce qu'on nous a appris à faire dans le chant, parce qu'on n'est jamais à la fin du chant, on pourra toujours en apprendre sur le chant, mais il faut que parce que j'ai des garçons quand même de valeur dans ce groupe, ils sont tous de valeur, parce que chaque garçon sur les 30, chacun amène sa pierre à l'édifice.
Bien sûr.
Je veux dire, un chœur, quand on a compris ça, un chœur, c'est... moi, par exemple, je tout seul, je ne suis pas un chœur. J'ai une présence de voix, mais sans mes copains, je ne serais rien. Et ça, quand on n'oublie pas ça, c'est très important. C'est comme une équipe de rugby, il y a 15 joueurs, c'est pas 14, c'est 15. Et là, les mal au cœur, c'est ça. Les mal au cœur, moi, mon souhait, c'est chaque fois qu'on sort, je veux qu'on soit nombreux. Mon souhait, c'est je les sollicite tout le temps. Je suis un peu comme leur père qui les embête tout le temps. Pourquoi ? Où c'est que tu vas aller ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne me mêle pas de leur vie. Mais je ne supporte pas quand ils ne viennent pas chanter. Pourquoi ? Parce que j'ai créé ce cœur pour qu'on vraiment on amène du bonheur, de la joie aux gens. Parce que moi, quand je chante, je suis heureux. Je regarde les gens quand ils nous regardent chanter. Je regarde les gens, l'émotion qu'on leur crée, qu'on leur apporte, le bonheur, tout ce qui en résulte à la fin du concert, c'est ce qui me rend et qui me disent, c'est ça mon plus grand bonheur.
Alors, il faut aussi parler maintenant de la tenue vestimentaire. Vous êtes toujours habillé donc avec le pantalon noir et la chemise rouge et le béret.
Voilà.
Alors, on peut dire aussi que vous vendez les bérets des mal au cœur avec le petit logo
à
la sortie des concerts et puis les disques aussi.
Tout à fait.
Donc ça, j'imagine que ça permet aussi de faire vivre l'association.
Voilà, c'est un petit fond de roulement qui nous permet de vivre parce qu'on a toujours des frais, on a toujours plein de choses. Et puis, voilà, ça fait tourner une association.
Alors, rouge et noir, pourquoi ? Ça peut être plein de raisons différentes, mais enfin là, évidemment, dans la région de Toulouse, être habillé en rouge et noir, bon.
Ouais, moi, c'est moi qui ai choisi les couleurs là aussi. J'ai choisi les couleurs et le logo. Rouge et noir, pourquoi ? Parce que on était à Toulouse.
Il y a la Croix Occitane, je crois aussi.
Oui, il y a la Croix Occitane. La Croix Occitane, pourquoi ? Parce que ça tombe bien. On était avant-gardistes, puisque maintenant nous appelons. Nous sommes en Occitanie, et donc le logo, il est approprié maintenant à la région.
Qui a été fait avant que la région soit mise en place, ouais, on peut clair, le dire. Voilà. Oui.
Et donc, la couleur rouge et noir, c'était vraiment pour marquer la couleur de Toulouse. Le béret, c'était pour tracer les Pyrénées, mais pas que les Pyrénées. Pourquoi ? Parce que moi, mon grand-père maternel, il est aveyronnais, donc dans l'Aveyron, on portait le béret. C'est toute la région Midi-Pyrénées qui porte le béret. Donc c'était pour garder le côté traditionnel. Et puis nous, on était les seuls dans la région à porter le béret. Je trouve que c'était une bonne chose. Je voulais vraiment me démarquer de tout ce qui se fait, tout ce qui se fait dans la région. Et voilà. Apparemment, on a été copié dernièrement, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie des choses de la vie.
Copié, mais pas, ne veut pas dire égalé.
Voilà. Donc voilà ce que je me dis. Mais donc ça et aussi ça prouve que cette couleur rouge et noir, elle plaît aussi. Donc si ça a été copié, c'est que c'est bien. Voilà, et donc je ne changerai pas la couleur.
Je voudrais savoir également comment vous choisissez les chants.
Alors les chants...
Parce que vous chantez dans plusieurs langues.
Oui, donc déjà le programme, chaque fois je fais le programme moi-même,
oui.
Avec un petit regard de Julie, qui me dit, parce qu'on est en alterne, on met un chant sérieux, on met un chant joyeux, voilà, on essaie de faire un petit panaché de tous ces chants. Et
ce qui rend le spectacle tellement vivant.
Voilà, c'est ça. C'est pour que le spectacle soit vivant, qu'il en ait pour tous les goûts. Et que...
Donc vous chantez en occitan.
Oui, on chante en occitan. On chante donc plusieurs occitans, puisqu'on chante le béarnais, on chante le languedocien, notre chant occitan traditionnel. Après, nous chantons en français, bien entendu, ce qui est notre langue naturelle, le français, qui est le plus dur. Il faut savoir que chanter en français, c'est plus difficile que chanter dans d'autres langues. Après, nous chantons en espagnol et en italien. Nous chantons en italien. Nous avons un très beau chant qui s'appelle Signore del Cime, qui est notre phare, notre chant phare, quoi.
Yannick, il nous reste deux petites minutes avant de terminer cette émission. Donc, je voudrais vous les laisser parce que vous avez peut-être un message à passer au mal au cœur.
Ouais. Alors je voudrais justement passer un message au mal au cœur en leur disant que, avant tout, je suis peut-être le président, mais je suis surtout leur ami et que je les aime beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'ils m'ont suivi jusqu'à maintenant. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble et je pense que nous avons mené une très 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 belle aventure. Je les en remercie. Et pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un honneur et un bonheur qu'ils aient pu continuer. Aussi des fois me supporter et des fois que moi je les supporte, mais ça fait partie des choses de la vie. Et je souhaite bonne route au mal au cœur, avec ou sans moi, mais avec moi c'est encore mieux. Hein. Mais j'espère que nous allons continuer longtemps et je voudrais aussi remercier aussi leur famille. Pourquoi ? Parce qu'un mal au cœur, il a une famille, comme moi j'ai la mienne. Et comme on est souvent sollicité, que je les sollicite tout souvent, je voulais faire avoir un petit coucou à leur femme, à leur épouse, qui aussi sont les bienvenus au mal au cœur, hein, pour partager toutes nos joies et nos bonheurs. Voilà, je leur dis encore merci à ces dames, parce qu'il ne faut pas les oublier.
En tout cas, merci pour tout ça, Yannick. Et plein de belles choses pour vous et votre groupe. Merci, au revoir.
Merci Irène de m'avoir invité. Pour moi, c'était un honneur et je suis très très content d'être passé dans cette émission.
Merci. Au revoir.
Au revoir.